Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui croise la destinée de deux virtuoses dans l'épopée des musiques noires. Le premier s'appelle Thelonious Monk, immense pianiste, injustement considéré comme un personnage fantasque. Le deuxième fut son saxophoniste pendant près d'une décennie et défend désormais l'image et le patrimoine de son illustre parrain. Il fut acteur et témoin d'une époque glorieuse. Il s'appelle Paul Jeffrey.
Hello, this is Paul Jeffrey. You're listening to Radio France International.
Sur son dernier album, We See, Paul Jeffrey rend hommage à celui qui a bousculé sa destinée au tournant des années 70. Thelonious Monk était son ami et cette complicité lui donne aujourd'hui la légitimité de nous narrer dans le détail une aventure humaine qui trouve sa source dans la révolution bebop des années 40. Lorsque Thelonious Monk enregistre ce titre, Well You Needn't, en octobre 1947, Paul Jeffrey n'est qu'un gamin qui n'a encore aucunement conscience d'être l'un de ceux qui écriront un chapitre entier dans l'histoire du jazz des années plus tard. Et pourtant, son nom sera associé à des artistes légendaires comme B.B. King, Charles Mingus, Dizzy Gillespie ou Lionel Hampton. Personnalité affable, il comprendra très vite l'intérêt de sympathiser avec les grandes figures de la musique populaire noire américaine.
I think the friendship... I was fortunate to establish a friendship.
Je pense que l'amitié que j'ai eu la chance d'entretenir avec certains musiciens m'a permis d'avancer dans ce métier. Avant de travailler avec Monk, j'écoutais ses œuvres, et ce depuis la fin des années 50, à l'époque où il jouait avec John Coltrane. Et puisqu'on parle de camaraderie, souvenons-nous que lors des concerts de Monk au Village Vanguard de New York, il y eut un incident qui fut résolu grâce à la solidarité entre musiciens. Ce jour-là, Monk entre dans le club et voit son batteur, Shadow Wilson, totalement dépité. Sa batterie avait disparu. Il se trouve que j'avais un bon ami qui habitait à deux pas de là et qui était un fan inconditionnel de Thelonious Monk. Je lui ai demandé s'il était disposé à prêter sa batterie et sa réponse fut évidemment très positive. C'est ainsi que Shadow Wilson a pu assurer son concert aux côtés de Thelonious Monk. À l'époque, j'étais encore très jeune et je n'ai pas osé m'adresser directement à Monk. Ce n'est que des années plus tard que notre rencontre a eu lieu. J'étais devenu un proche de Charlie Rouse, le saxophoniste de Monk. J'avais été son élève. Je le connaissais depuis 1955, alors qu'il travaillait avec le tromboniste Benny Green. Monk et Charlie Rouse étaient de bons amis. À force de côtoyer tous ces gens, je me suis rapproché du maestro. Mais c'est en fait grâce à Wilbur Ware, le contrebassiste de Monk, que j'ai pu intégrer le groupe. J'étais évidemment très impressionné à la seule idée d'être le nouveau saxophoniste du grand Thelonious Monk. L'occasion s'est présentée lorsque mon prédécesseur, Pat Patrick, a quitté Monk pour rejoindre l'orchestre de Machito. Monk devait donner un concert à Raleigh, en Caroline du Nord. Wilbur Ware m'a recommandé, et c'est ainsi que je me suis retrouvé sur scène avec Monk, sans jamais avoir répété. Trophy, l'une des fameuses mélodies signées Thelonious Monk qui déroutait ses musiciens et plus souvent les critiques jazz qui ne comprenaient pas toujours l'écriture de ce pianiste iconoclaste dont l'attitude, pour le moins singulière, fit couler beaucoup d'encre. Pour son ami Paul Jeffrey, toutes ces volte-face et sautes d'humeur n'étaient pas le signe d'un esprit troublé, mais au contraire l'illustration de la clairvoyance d'un homme dont on ne connaissait pas la véritable identité.
Being with Monk, I spent a lot of time with Monk. Not only playing the music, but,
J'ai passé beaucoup de temps avec Monk. Je ne faisais pas que jouer du sax dans son orchestre. Je partageais beaucoup de choses avec lui. Nous écoutions des disques ensemble, nous discutions ensemble. Ma relation avec Monk dépassait le cadre professionnel. Par exemple, à notre retour du Japon, je suis resté 5 mois avec lui, juste pour le plaisir de le côtoyer. On ne travaillait pas, on partageait des moments de complicité. C'est ainsi que j'ai pu comprendre le personnage. Un jour, il me dit « Il faut que nous nous connaissions davantage ». J'ai réalisé qu'il voulait me donner une autre image de lui-même. Beaucoup de gens se sont trompés sur son attitude. On disait qu'il était excentrique, mais c'était réellement secondaire. Il était d'abord un homme affable, silencieux et réfléchi. Quand Monk faisait soudainement 10 pas en arrière alors qu'il marchait dans la rue, tout le monde trouvait ça bizarre. Mais lui avait une explication. Il disait « Je fais marche arrière pour me souvenir d'où je viens ». Ce qui, somme toute, était assez logique pour un noir à l'époque. C'était sa manière d'illustrer sa quête identitaire. Il fallait rebrousser chemin pour comprendre qui on était et où on allait. C'est ainsi que j'ai réalisé que son comportement étrange avait toujours une signification.
But when you got to know him, then you began to realize that the things that people said were nonsensical or whatever made perfect sense.
Si l'on en croit Paul Jeffrey, le comportement original de Monk et l'inventivité de sa musique ont un sens. Il est clair que ce répertoire est l'œuvre d'un penseur qui, ne l'oublions pas, évoluait dans une Amérique ségrégationniste et tentait de faire entendre sa voix à travers une forme de contestation artistique. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait aujourd'hui le saxophoniste Paul Jeffrey.
You know, when I go and reflect
Quand je repense à ce qui se passait aux États-Unis à cette époque, je me dis que les vrais militants pour les droits civiques étaient les musiciens. Je faisais partie de l'orchestre de B.B. King en 1960 et nous tournions dans le sud des États-Unis. Étant né à New York, je n'avais pas conscience de ce qui se passait dans le sud. J'ai été témoin de choses terribles. On ne pouvait pas séjourner dans certains hôtels, on ne pouvait pas boire dans les fontaines publiques, on ne pouvait pas manger dans certains restaurants. Il y avait de graves incidents. Je me souviens notamment du jour où nous devions donner un concert au Nouveau-Mexique. Je demande à un chauffeur de taxi de me déposer devant un restaurant pour aller déjeuner et le type me répond « Je vous le déconseille, les musiciens de Fats Domino ont été arrêtés pour avoir voulu entrer dans cet établissement. Il m'a alors recommandé de passer par les cuisines pour ne pas être inquiété. J'ai refusé et au moment où j'allais descendre du taxi, j'ai vu deux policiers plantés devant l'entrée qui n'attendaient qu'une chose, que je passe la porte du restaurant. Voilà ce que nous vivions dans le sud. Tant que les jazzmen du nord n'avaient pas été joués dans les états ségrégationnistes, on ne parlait pas de ce problème. Il se produisait au mieux à Washington DC et dans le meilleur des cas à Saint-Louis, qui était à peine considéré comme une ville du sud. D'ailleurs, Miles Davis n'a pas été plus loin. Ce sont surtout les artistes de rhythm and blues comme Ray Charles qui ont écumé les scènes du sud et ont vécu ce racisme institutionnalisé. C'est grâce à ces musiciens courageux que le mouvement des droits civiques a pu débuter. C'est à cette époque que l'on a commencé à encadrer les universités pour permettre aux Noirs d'étudier, à des citoyens noirs de voter. Les musiciens ont libéré la musique, c'est ce qu'on a appelé le free jazz. C'était une forme de contestation artistique de l'ordre établi. John Coltrane est né à Hamlet, qui fut longtemps l'un des bastions de la ségrégation raciale, même jusqu'en 1983, à l'époque où j'enseignais dans cette ville. D'ailleurs, je ne me sentais pas en sécurité là-bas. Bref, Coltrane a joué plusieurs fois dans sa ville natale, mais il ne traînait pas dans les rues, il restait à l'hôtel jusqu'à l'heure du concert. C'est en tout cas ce que m'a rapporté son pianiste, McCoy Tyner. À peine le concert terminé, il filait à l'aéroport et rentrait à New York. Les musiciens de jazz ont très mal vécu cette situation. Souvenez-vous de la tournée de Charlie Parker dans le sud au début des années 50. Son trompettiste, Red Rodney, s'est fait passer pour un noir albinos pour pouvoir suivre Bird dans les états du sud. Quel geste généreux! Il tenait tellement à jouer avec son idole, Charlie Parker, qu'il était prêt à en accepter les conséquences. Il disait sans cesse « Si je dois travestir mon identité pour accompagner Bird dans le sud, je le ferai ». Et il l'a fait. Il a essuyé les critiques, les insultes des sudistes. Mais ce fut une très belle manifestation de son soutien au mouvement des droits civiques.
If that's what it takes for me to work with Charlie Parker in the South, I'll do it. And that's significant. That was a strong civil rights gesture.
Propos réfléchis de Paul Jeffrey sur la condition des Noirs aux États-Unis il y a 50 ans reflètent un vécu douloureux que nombre de jazzmen exprimaient à travers la musique. Mais notre invité du jour a poussé encore plus loin son travail de quête identitaire en devenant professeur d'université et en choisissant de transmettre à la jeune génération une part de son héritage historique.
Duke being a strong academic university.
La Duke University est un établissement académique d'importance aux États-Unis. Il y a un programme d'enseignement musical qui couvre de nombreux aspects de la culture jazz, mais l'apprentissage de la scène est secondaire. L'histoire est davantage suivie. J'avais 250 étudiants inscrits à mes cours chaque semestre. Sur un an, cela représente 500 personnes. La plupart n'étaient pas musiciens. Ils s'intéressaient au contexte social et historique de la musique. C'est d'ailleurs essentiel. Il faut écouter et comprendre pour ensuite pouvoir la jouer. À mon époque, il y avait 23 000 étudiants inscrits à la Duke University et 80% d'entre eux ont choisi de suivre mes cours. Cela en dit long sur le besoin de la jeunesse à trouver ses racines. J'ai d'ailleurs eu quelques problèmes avec le président de l'université qui s'inquiétait de mon discours racial plus que musical. Ce à quoi je répondais qu'il était essentiel que tous ces jeunes aient une vision, une perspective historique, quel que soit le cursus qu'ils suivraient dans l'avenir. D'ailleurs, l'une des questions que je posais toujours en préambule à mes élèves était la suivante. Combien d'entre vous connaissent Charlie Parker ? En général, ils étaient assez peu nombreux. Puis je demandais, connaissez-vous Duke Ellington ? Là, il y en avait un peu plus. Et quand je citais Louis Armstrong, tout le monde levait le doigt. Cela vous montre le travail de rappel historique qu'il faut entreprendre pour donner des clés à tous ces gamins. Et là, je pouvais commencer mon cours et leur dire que Louis Armstrong est un pionnier et une personnalité universelle. Je ne veux pas être partisan, mais combien d'entre eux connaissaient le nom du 15e président des États-Unis ? Aucun. Louis Armstrong ? Tout le monde. Ce n'est pas un discours racial, c'est une réalité historique. Cet homme noir est un pilier de la culture américaine, alors qu'il n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école et qu'il s'est construit tout seul. Il a transformé l'humeur musicale de ce pays.
So he's significantly changed the ambience of this music.
Paul Jeffrey est un puits de science et chacune de mes questions était l'occasion d'évoquer une tranche de vie toujours replacée dans un contexte social ou historique. Alors que je lui présentais un grand classique, l'album de Thelonious Monk à Town Hall, enregistrement légendaire réalisé il y a 50 ans, il se fit un devoir de me donner quelques clés supplémentaires pour que mon exposé soit complet. J'étais subitement devenu un élève face au professeur.
This music has just been played at Town Hall.
Ce répertoire a été interprété il y a peu à Town Hall pour célébrer le 50e anniversaire de cet album légendaire. Mais ce n'est pas la première fois que l'on rejoue ces œuvres de Monk. Déjà en 1974 ou 75, je conduisais l'orchestre qui se produisait à Town Hall. Le pianiste Barry Harris était présent au cas où Thelonious Monk déciderait de ne pas monter sur scène. Mais Monk est arrivé 10 minutes avant le début du concert et a donné une prestation exceptionnelle. Les organisateurs avaient vu les choses en grand, puisque nous avions également un orchestre à cordes pour nous accompagner. George Wynne, le producteur, voulait enregistrer cet événement. Ce fut une date majeure dans l'histoire du jazz. Malheureusement, cette formation prestigieuse n'a jamais tourné en dehors des États-Unis.
This band was supposed to go on tour, but they never went on tour.
Je ne pouvais pas quitter Paul Jeffrey, intime de Thelonious Monk, sans lui demander d'évoquer le standard ultime du pianiste, à savoir Round Midnight. Et là encore, il mit les points sur les i en rétablissant quelques vérités.
said when he wrote that composition, he was so young. When he went to get it published.
Quand Monk a écrit cette composition, il était si jeune que l'éditeur a refusé de le créditer sur cette œuvre. C'est la raison pour laquelle c'est Cootie Williams qui en est l'auteur aujourd'hui, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Cootie Williams était un piètre compositeur et Monk ne faisait que collaborer avec ce trompettiste à l'époque. Je préfère m'intéresser à des œuvres plus personnelles comme Crépuscule with Nelly ou Ruby My Dear. Ruby était la petite amie de Monk. En fait, il courtisait Nelly et Ruby en même temps. Comme il ne voulait pas passer la soirée au cinéma avec Nelly, il est resté chez lui et a composé une chanson pour Ruby, Ruby My Dear. J'ai toujours considéré que la discographie de Monk était davantage une collection d'histoires personnelles qu'une série de dates d'enregistrement. Plus que tout autre, il avait ce don d'exprimer sa personnalité et son état d'esprit à travers la musique. Après la tournée au Japon, qui avait réuni Monk, l'orchestre de Woody Herman, le guitariste Ben Powell et Carmen McRae, je me suis entretenu avec le producteur George Wein et je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas organiser une tournée européenne. Il m'a répondu sèchement « parce que Monk ne crée plus rien ». Mais quand on demandait à Monk pourquoi il s'entêtait à jouer les mêmes titres à chaque concert, il faisait toujours cette remarque « parce qu'il y a encore des gens qui ne le connaissent pas ». Et il avait parfaitement raison. À cette époque, Monk était signé chez Columbia Records et les décideurs du label ont eu cette idée saugrenue de lui proposer de jouer le répertoire des Beatles. Il a évidemment refusé et il a eu raison. C'était une très mauvaise idée. D'abord, c'était assez irrespectueux vis-à-vis de Monk. Les Beatles ont écrit de belles chansons, mais face au génie de cet immense pianiste, elles ne sont que de jolies bluettes de pop musique. Ensuite, personne n'a demandé aux Beatles de jouer les œuvres de Monk. Enfin, il s'agissait clairement d'un coup marketing pour faire de l'argent. Je me souviens de sa contrariété. Columbia Records lui avait envoyé chez lui les partitions des Beatles. Et il me dit, tu ne vas pas le croire. Ils m'ont même envoyé un type pour me lire les partitions. Il était furieux. Lui, Thelonious Monk, compositeur de grand talent, était perçu comme un musicien has-been, incapable de déchiffrer les mélodies des Beatles. Voilà ce que des promoteurs osaient imaginer pour gagner de l'argent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que nous étions au Japon, une équipe de production audiovisuelle nous demande s'il est possible d'enregistrer le concert. Je leur conseille de poser la question à Monk, mais trop intimidé, ils souhaitent que je sois leur porte-parole auprès du maestro. Je vais voir Monk et je lui explique la situation. Sa réaction fut cinglante et désabusée. Avec ou sans mon accord, ils enregistreront de toute façon. Tu ferais mieux de négocier un cachet. Une fois encore, il avait raison. Ils ont donc sorti un disque de notre prestation à Tokyo. Columbia Records, apprenant cette nouvelle avec stupeur, décide de ne pas distribuer cet enregistrement, en reprochant à Monk d'avoir laissé faire alors qu'il avait refusé de travailler sur leur projet Beatles. Résultat, le concert de Tokyo n'existe que sur des éditions pirates, souvent en vinyle, et n'apparaît même pas dans la discographie officielle de Monk. Quelle honte! Depuis tout ce temps, ce disque est bloqué par des hommes d'affaires qui se disputent les droits. Imaginez le fruit artistique et financier pour le groupe si ce disque avait été commercialisé. Une part de ma propre carrière est absente des livres d'histoire. Personne n'a eu la chance à ce jour d'entendre la prestation de cet orchestre à Tokyo. Voilà pourquoi nous prenons notre revanche aujourd'hui avec le groupe que je conduis actuellement. Nous rattrapons le temps perdu.
So we're doing it now. We're doing it, yeah. We're making up for lost time, you know. Thank you.
c'est sur cette version inspirée de Round Midnight par Paul Jeffrey que s'achève cette nouvelle épopée des musiques noires. Je rappelle que We See, l'album hommage de Paul Jeffrey à Thelonious Monk, est disponible chez Imago Productions. Paul Jeffrey au sax est entouré de Alessandro Colina au piano, Sébastien Adnaud à la contrebasse et Laurent Sarien à la batterie. Tout ce beau monde sera en tournée cet été dans les capitales européennes. Les archives musicales du jour étaient mises en onde par Nathalie Laporte et restaurées par Jean-Philippe Thury. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.